Donc, bon, je reprends toujours la même chose, enfin non, pas toujours la même chose, mais le rappel du début. La société médiévale, société de l'honneur, société où chacun est soucieux de ne pas perdre la face, société où l'exhibition humiliante est un châtiment de justice, et sur tous ces points, semblable à la société antique comme à beaucoup d'autres sociétés à travers le monde, cette société médiévale est aussi une société, en cela complètement différente de la société antique, dont la religion fait de l'humilité une vertu. Si vous ne vous faites pas semblables à ces petits, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le premier dans le royaume des cieux. Matthieu 18, 3, 4. Une religion dont le Dieu incarné est un Dieu humble et qui se propose à l'imitation par son humilité, celle de sa naissance, celle de sa vie, celle de son enseignement, celle de sa mort. Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, Matthieu 11, 29. Et un Dieu incarné humble jusqu'à accepter l'humiliation, donc jusqu'à la mort humiliante, et s'offrant par là aussi à l'imitation. Et pour en venir tout de même au Moyen-Âge, alors ce contraste est si fort que dans la séance d'aujourd'hui, j'insisterai beaucoup sur à la fois les traits qui font de cette religion une religion de l'humilité et de l'humiliation, et la façon dont le Moyen-Âge se débrouille avec, à la fois les adopte et à la fois les contourne cet enseignement. Et cela nous mettra sur la voie de la suite. Et dans le De gradibus humilitatis et superbie, donc les degrés de l'humilité et de l'orgueil, Saint Bernard, Bernard de Clairvaux, cite l'épître aux Hébreux, « Et dedicit ex his quae passus est obedientiam ». Et il a appris, il s'agit du Christ, bien sûr, le Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et Saint Bernard cite cette formule et il s'étonne que le Christ, qui est Dieu, ait quelque chose à apprendre. Qu'est-ce qu'il a à apprendre, le Christ ? Rien du tout. Non. Et sa solution, c'est qu'il n'apprenait pas ces choses dans sa tête, mais dans son corps. Et le corps du Christ, c'est l'Église dont il est la tête, dont il est le chef. Et son propre corps, son corps humain, son corps mortel, en apprenant les souffrances et les humiliations, les transmettait et les enseignait à l'Église. Et Saint Bernard commente... Nam illa mors illa crux opprobria sputa flagella quae omnia caput nostrum Christus per transit quid aliud corporeius id est nobis quam preclara obedientiae documenta fuerunt. En effet, cette mort, cette croix, les outrages, les crachats, les coups de fouet, toutes ces choses par lesquelles notre chef, le Christ, est passé, qu'ont-elles été d'autres pour son corps, c'est-à-dire pour nous, que des manifestations éclatantes d'obéissance. Mais le grand texte sur l'humilité du Christ, sur lequel se fonde en somme une théologie de l'humilité, le texte qui inspire saint Augustin et à travers lui, comme toujours, toute la tradition chrétienne, le texte qui fait le lien d'une part entre l'humilité du Christ et l'humilité des hommes, qui sont invités à l'imiter, et d'autre part le lien entre l'humilité du Christ et l'humiliation de la croix, ce texte, c'est le grand développement très connu de saint Paul dans l'Épître aux Philippiens 2, 3, 11. Donc je ne lis que le début en latin. Nil per contentionem, neque per inanem gloriam, sed in humilitate superiores sibi in vicem arbitrantes. Donc ce mot d'ordre qui n'est pas du tout un mot d'ordre antique, qui est un mot d'ordre en peu de civilisation, non pas feindre l'humilité, non pas faire semblant, mais se penser vraiment inférieur aux autres. N'accordez rien à l'esprit de parti, rien à la vaine gloire, mais que chacun, par l'humilité, estime les autres supérieurs à soi. Ne recherchez pas vos propres intérêts, mais plutôt que chacun songe à ceux des autres. Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Et alors, à partir de ces conseils, de ces prescriptions morales, en somme, le fondement théologique, lui, le Christ, lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'anéantit lui-même, prenant la condition d'esclave et devenant semblable aux hommes. S'étant comporté comme un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur une croix. Aussi Dieu l'a-t-il exalté et lui a-t-il donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour que tout, au nom de Jésus, s'agenouille au plus haut des cieux, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue proclame de Jésus-Christ qu'il est Seigneur, la gloire de Dieu le Père. Alors vous voyez que Paul propose ici, si l'on peut dire, une théorie ou une théologie de l'abaissement du Christ, mais il justifie aussi que l'on puisse se glorifier dans la croix, comme il le dit lui-même, Galates 6, 14, se glorifier dans l'humiliation de la croix, supplice infamant des esclaves et des malfaiteurs, scandale pour les Juifs et folie pour les Grecs, comme il le dit dans le célèbre passage de la première épître aux Corinthiens, qui fait directement écho à celui-ci. Mais ici, on voit, et je vais citer, mais ici, on voit autre chose, hein, qui est que, au-delà de l'humiliation de la croix, il y a cette gloire de la croix. Et il est tellement difficile d'accepter l'humiliation que le Moyen-Âge, comme d'une façon générale toutes les époques, tout le monde va se précipiter sur la gloire qui suit, si j'ose m'exprimer ainsi. Et le passage de l'Épître aux Corinthiens, le voici seulement en français, « Le langage de la croix est folie pour ceux qui se perdent, mais pour ceux qui se sauvent, pour nous, il est puissance de Dieu. Car il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et l'intelligence des intelligents, je la rejetterai. » Isaïe 29, 14, c'est toujours Isaïe qui est invoqué dans ces mouvements d'inversion des valeurs, en somme. « Où est-il le sage? Où est-il le lettré ?» C'est encore Isaïe. Et là, Paul continue, « Où est-il le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie, excusez-moi, la coquille, la sagesse du monde? Puisqu'en effet, le monde, par le moyen de la sagesse, n'a pas reconnu Dieu dans la sagesse de Dieu, c'est par la folie du message qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants. Alors que les Juifs demandent des signes et que les Grecs sont en quête de sagesse, nous proclamons, nous, un Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais pour ceux qui sont appelés, Juifs et Grecs, c'est le Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. » Donc, l'abaissement que le Christ a accepté par les hommes et pour les hommes doit servir de modèle à l'abaissement que chacun doit s'imposer au regard des autres. C'est ce que dit l'Épître aux Philippiens. Cet abaissement est allé jusqu'à l'extrême de l'humiliation, celle de la mort infamante sur la croix, mais une humiliation que la résurrection a transformée en gloire. Alors, ce retournement, et vous le reconnaissez, il est absolument caractéristique de la dialectique paulinienne, cette sorte de paradoxe constant. S'il faut se glorifier, parlant de lui-même, s'il faut se glorifier, c'est de mes faiblesses que je me glorifierai. Deuxième épître aux Corinthiens, à deux reprises, 11-30, 12-5 et 9. C'est quand je suis faible que je suis fort. Se glorifier dans les tribulations, Romains 5-3. Se glorifier dans la croix, Galates 6-14, que j'ai déjà cité. Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre ce qui est fort. Ce qui dans le monde est sans naissance et que l'on méprise, voilà ce que Dieu a choisi. Premier épître aux Corinthiens 1, 27, 28. Il faut se faire fou pour devenir sage, car ce qui est folie aux yeux du monde est sagesse aux yeux de Dieu, nous venons de le voir. Et il y en a d'autres, par référence à Luc 9, 48. Et il y en a d'autres exemples. Et ce retournement constant chez Paul a pour conséquence inattendue de finir par faire disparaître l'abaissement et l'humiliation dans la gloire à laquelle ils conduisent, comme il apparaît clairement dans la fin du passage de l'Épître aux Philippiens que je citais il y a un instant. Et ce sera, nous allons le voir bientôt, l'attitude constante du Moyen-Âge face au scandale de la croix et le moyen de rendre acceptable ce scandale de la croix par une civilisation de l'honneur. Mais l'humiliation ne se laisse pas si vite oublier, je dis dans le fondement même de cette religion. D'abord, elle a sa place, et elle a, si on ose dire, sa place d'honneur. Tout à la fin, en une phrase plus ample que les précédentes, dans le retournement des valeurs initiale que constituent les béatitudes. Les béatitudes qui, dans la suite des évangiles, se trouvent au début. C'est dans le premier, enfin c'est aussi dans Saint-Luc, mais ça apparaît chez Saint-Matthieu tout au début, c'est le tout début de l'enseignement du Christ, et c'est sur ces béatitudes que s'ouvre le sermon sur la montagne. Et donc, dans le premier évangile, en prologue, enfin l'évangile que traditionnellement on place en tête, en prologue au sermon sur la montagne, en Matthieu 5, c'est-à-dire bien avant la passion, hors de toute référence à elle, bien avant les premières annonces de la passion, il y a ce renversement des valeurs, bienheureux les pauvres, bienheureux, etc., et qui se termine par cette phrase plus ample. Au lieu de « bienheureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux, bienheureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde, bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu », etc. Chaque fois, le balancement est très bref, mais à la fin, rhétoriquement, la phrase prend de l'ampleur. « Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi ». Et donc, dès le début, cette bénédiction de l'humiliation est affirmée. Parole qui n'est évidemment pas oubliée après la passion et dont l'écho s'entend encore, par exemple, au début des Actes des Apôtres, lorsque Pierre et les apôtres, convoqués pour la seconde fois devant le Sanhédrin, sont fouettés de verges. Ils s'en allèrent du Sanhédrin tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages, contumeliam pati, dans la Vulgate, pour le nom de Jésus, acte 5,41. Ou encore, et sous la forme même d'une béatitude, dans la première épître de Pierre, heureux si vous êtes outragés pour le nom du Christ, si ex probramini nomine Christi, beati eritis. 1 Pierre 4,14. S'agissant de la passion elle-même, il y a, enfin, non pas un renchérissement, car en droit, ils viennent avant, mais la position, si je puis dire, des évangiles est différente de celle de Paul. Les évangiles ne théorisent pas comme Paul, ne fondent pas sur la passion une théologie de l'incarnation et de la rédemption. Les évangiles, donc, si je puis dire, ne se permettent pas d'escamoter aussi vite l'humiliation au profit de la gloire. Et vous savez que le récit, qui est extrêmement détaillé, prend bien soin de ne passer sous silence aucun outrage. Le soufflet, enfin, si on réunit ensemble les synoptiques et Jean, le soufflet du garde à la réponse que Jésus fait au grand prêtre. C'est comme ça qu'on répond quand tu parles au grand prêtre. Le prisonnier trimballé de la maison du grand prêtre au tribunal du procurateur, puis chez Hérode, puis de nouveau chez Pilate, exhibé devant la foule, montant au calvaire. Les moqueries et les coups des soldats, qui est l'humiliation de la royauté dérisoire, du manteau de pourpre, du sceptre de roseau et de la couronne d'épines, les moqueries d'Hérode, auxquelles il refuse de répondre, et Hérode se moque de lui, les insultes de ceux qui voient Jésus en croix, celles des larrons crucifiés avec lui, les deux larrons dans Saint Matthieu, l'un des deux, le mauvais, chez Luc. Et la résurrection, les apparitions du Christ ressuscité ne sont pas traitées et de très loin avec un tel détail. Si vous prenez même en volume le volume du récit de la Passion dans les évangiles et ce qui se passe après, ce qui est pourtant l'essentiel, la résurrection du Christ, il n'y a pas de comparaison. En particulier chez Marc, l'évangile le plus court, le plus brut de décoffrage, si je puis dire. Hein, eh bien, après la Passion, il y a ce très court chapitre 16 dont la moitié est occupée par les saintes femmes au tombeau. Et puis ensuite, il y a quelques lignes sur les apparitions. Donc, vraiment, on insiste. Et plus encore, la volonté de mettre en évidence l'humiliation du crucifié se manifeste dans la construction littéraire de Matthieu et de Marc, et chez Jean brièvement avec la tunique sans couture jouée au dé. Je dis la construction littéraire parce que ces deux évangiles scandent le récit de la Passion par des emprunts, qui sont soit des allusions, soit des citations, des emprunts au psaume 21, mais dans l'ordre, en le prenant dans l'ordre inverse, en commençant par le milieu, par la fin, ou plutôt par le milieu, parce que c'est un psaume comme en deux parties, et en remontant dans le cours des versets, de façon à terminer, chez Matthieu et Marc, par le verset 1 du psaume 21, cité dans le texte hébreu, « Élie, Élie, lema sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ultime parole du Christ en croix dans ces deux évangiles, qui est le premier verset du psaume. Et, encore une fois, la citation est reproduite littéralement et scrupuleusement dans la langue originale avant d'être traduite. Et alors, on voit, vous voyez, si on suit le déroulement de la Passion, enfin, à partir de l'arrivée au calvaire, il y a d'abord donc, le partage des vêtements par tirage au sort. Le Christ est dépouillé de ses vêtements, les vêtements sont tirés au sort dans Matthieu, dans Marc et chez Jean aussi. Et ça, c'est le verset 19 du psaume 21. « Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mes vêtements. » Puis, le crucifiement lui-même et la situation, la position, en somme, du Christ sur la croix. Ça, c'est le verset précédent. Ce sont les versets 17-18 du psaume 21. « Des chiens nombreux me cernent, une bande de vauriens m'entoure, comme pour déchiqueter. » Une bande de vauriens m'entoure comme pour déchiqueter mes mains et mes pieds. Je peux compter tous mes os. Les gens me voient, eux, ils me regardent. L'agonie et la soif. Matthieu 27-34, Marc 15-36, et encore une fois, et Jean, là encore, 19-28. Et dans l'évangile de Jean, c'est même le dernier mot, la dernière parole du Christ en croix, pour parler comme Bach. Sitio, j'ai soif. Ah bon. Et ça, c'est la soif de l'agonie, ce sont les versets 15-16, donc on remonte là encore du psaume 21. Comme l'eau, je m'écoule et tous mes os se disloquent, mon cœur est pareil à la cire, ils fondent au milieu de mes viscères, mon palais est sec comme un tesson et ma langue collée à la mâchoire. Voilà. Les moqueries des spectateurs, qui sont, alors voilà, cette insistance sur l'humiliation, ces moqueries des spectateurs sont rapportées très longuement par les trois évangiles synoptiques. Matthieu 27, 39, 44, Marc 15, 29, 32, Luc 23, 35, 39. Et ces moqueries des spectateurs, on remonte toujours dans le psaume, ce sont les versets 7, 9, « Et moi, vers de terre, et non pas homme, risée des gens, mépris du peuple, tous ceux qui me voient me bafouent, leur bouche ricane, ils hochent la tête, qu'ils s'en remettent à Yahvé, qu'il le délivre, qu'il le libère, puisqu'il l'aime. Et bien cela, c'est repris textuellement dans l'évangile de Matthieu, 27-43. Il a compté sur Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il s'intéresse à lui, disent les gens qui assistent à la crucifixion. Et enfin, le psaume, ayant été, donc après avoir parcouru tout le psaume à rebours, on en vient au verset 1, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dernière parole du Christ chez Matthieu et Marc. Donc, la garantie vétérotestamentaire que cherchent naturellement les évangélistes, puisqu'ils veulent démontrer que Jésus est le Messie attendu, depuis toujours. Donc il faut que les Écritures comme aient parlé de lui. La prophétie nécessaire pour témoigner que la passion de Jésus, cette passion scandaleuse de Jésus, tout au contraire le désigne comme le Christ, eh bien les évangélistes la trouvent dans le psaume de l'humiliation par excellence. Et alors qu'il y a tant, enfin, les psaumes, il y a tant de psaumes de l'humiliation. Mais il y a un psaume de l'humiliation qui est encore plus un psaume de l'humiliation que les autres, et c'est celui-ci qu'ils vont chercher. Et alors, bon, c'est pas moi qui ai trouvé... Enfin, comme tout le monde, j'étais frappé en lisant les évangiles de voir que les évangiles citaient le psaume 21. Mais enfin, évidemment, c'est comme tout le monde. Et il y a des spécialistes de ça que je ne suis pas. Et le fait... Mais le fait a immédiatement paru tellement important que la Bible massorétique a modifié le texte du psaume 21 pour qu'on ne puisse pas l'appliquer à la passion de Jésus. Vous savez que là, dans la tradition de la Bible hébraïque, il y a eu une sorte de toilettage, de mise à jour de la Bible au 1er siècle après Jésus-Christ. C'est la Bible dite massorétique qui est, depuis, la Bible hébraïque qui fait autorité. Mais nous avons, outre des fragments, nous avons un témoignage complet, bien qu'un peu indirect, sur ce qu'était la Bible avant cette révision. C'est la traduction des Septante, puisque la Bible grecque supposée traduite dans une île près d'Alexandrie par 70 sages. Cette traduction grecque de la Bible remonte au début plutôt, du 3e siècle avant Jésus-Christ, donc bien avant, vers 270 avant Jésus-Christ. Et le texte du psaume 21 des évangiles, si vous voulez, est comme garanti par le texte de la Septante. Et dans la Bible massorétique, ce texte, ce psaume, est appliqué à Esther. Et il sent, alors ce n'est pas moi qui le dis, il y a eu un livre extrêmement intéressant dirigé par Gilles Dorival, David, Jésus et la reine Esther, recherche sur le psaume 21, chez Peters en 2002, qui montre cela. Mais en montrant cela, cela montre aussi que tout de suite, dans cette rivalité interreligieuse et à l'intérieur de la même religion, encore à ce moment-là, eh bien, tout de suite, on a vu l'importance de ce psaume 21. Donc, que pour la passion du Christ, la référence vétérotestamentaire soit un texte de l'humiliation, c'est assez naturel. Mais il n'y a pas que cela. Il y a ce à quoi je faisais allusion, ce dont j'ai parlé déjà la dernière fois. Il y a ce passage au début des Actes des Apôtres. Que lit le général eunuque de la reine Candace lorsque Philippe, à l'invitation de l'ange, rattrape son char ? Le passage d'Isaïe sur le serviteur souffrant. Comme une brebis, il a été conduit à la boucherie, comme un agneau muet devant qui le tond. Ainsi, il n'ouvre pas la bouche. Dans son abaissement, la justice lui a été déniée. Acte 8, 32-33, et c'est Isaïe 53, 7-8. Et la question, je le disais, la question de l'eunuque à Philippe qui lui demande s'il comprend ce qu'il lit est « Je t'en prie, de qui le prophète a-t-il dit cela ? De lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Et connaît la suite. Philippe prit alors la parole et, parlant de ce texte de l'Écriture, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Acte 8, 35. L'eunuque, convaincu et converti, demande à être baptisé au premier point d'eau devant lequel il passe. Et voilà. Le prophète parle-t-il de lui ou d'un autre ? Partant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Il est clair que Philippe explique qu'Isaïe ne parle pas de lui, mais du Christ à venir et de sa passion, et qu'il explique toute la foi au Christ à partir de ce texte de l'abaissement et du déni de justice, de l'humiliation et du déni de justice, et qu'il l'explique de façon assez convaincante pour convertir sur l'heure son interlocuteur. Donc, vous voyez, bon, on dirait que j'ai été trop long, mais j'ai fini là-dessus. Du côté de Paul, une dialectique très construite de l'humilité, de l'humiliation et de la gloire. Prescription morale, il faut être humble, parce que le Christ a été humble jusqu'à l'humiliation, mais cette humiliation est devenue sa gloire. Parvenir à la gloire par l'humilité et l'humiliation. Du côté des évangiles et du début des Actes des Apôtres, c'est la même chose, puisque les Actes des Apôtres s'attribuent eux-mêmes à Luc, n'est-ce pas, et se présentent comme la suite de l'évangile de Luc. Du côté des évangiles et du début des Actes, la contemplation de l'humiliation même est une sorte de focalisation sur l'humiliation. Alors évidemment, la pensée médiévale s'est développée dans la première direction, du côté de la dialectique de l'humiliation et de la gloire, en se raccrochant à cette gloire, sinon que reste-t-il ? Mais, tout de même, la liturgie de la Semaine Sainte, liturgie médiévale, est consacrée tout entière à la contemplation de l'humiliation du Christ. Elle intègre dans ses lectures le passage du serviteur souffrant. Elle lit, enfin, dans l'ancienne liturgie, chaque jour l'un des récits de la Passion. Et la contemplation de l'humiliation du Christ est présentée dans de nombreux traités de dévotion, même dans la banalité des traités de dévotion et de spiritualité médiévaux, c'est présenter la contemplation d'humiliation du Christ comme un exercice spirituel qui doit conduire, justement, une méditation qui doit conduire à la contemplation. Et nous avons vu tout à l'heure la méditation brève, mais intense, que cette contemplation d'humiliation du Christ inspire à saint Bernard dans son traité sur l'humiliation. Et la focalisation contemplative sur l'humiliation n'a pas été absente de certains mouvements ascétiques ou mystiques, de l'élan des réformateurs monastiques la fin du XIe et du XIIe siècle, sous la devise « Nudus nudum Christum sequi », « Suivre nu le Christ nu », ou l'injonction « Nudus nudum Christum sequere », l'impératif du verbe dépendant, « Suis nu le Christ nu ». Et ce mot d'ordre désigne, au-delà de la nudité métaphorique de la pauvreté évangélique, la nudité physique de la croix. Et c'est bien en allant jusqu'au bout, dans sa naïveté, de laïque non instruit, qu'ira François d'Assise, qui se met tout nu sur la place d'Assise pour distribuer ses vêtements au monde, pauvreté, humiliation la nudité. Et bien entendu, nous aurons l'occasion de revenir sur l'humilité monastique et sur le lien qu'établit saint François entre humilité, humiliation et béatitude. Et André Vaucher, au séminaire, nous en parlera certainement beaucoup mieux que je ne pourrais le faire. Donc, d'un côté, il y a bien cette focalisation sur l'humiliation dans la liturgie, dans la méditation spirituelle, dans la, l'organisation même des mouvements religieux. D'un autre côté, la gloire de la résurrection, encore une fois, n'a pas seulement effacé l'humiliation de la croix, elle a vite rendu la croix glorieuse. La croix est devenue l'insigne du christianisme. Donc, on se revendique de la croix. La croix est consacrée, alors, au prix d'un glissement et d'une incompréhension d'ailleurs, mais elle est consacrée dans son efficacité victorieuse par le in oxigno vinces annoncé à Constantin avant la bataille du pont Milvius en 312. Tu vaincras par ce signe, bien que la vision n'ait pas été celle de la croix, mais celle des deux lettres qui héros, les premières lettres du mot Christ. Et saint Augustin écrit « Exaltatus in cruce cum humiliaretur, sed humiliatio ilius non potuit nisi alta esse. » Il a été élevé sur la croix. Alors là, c'est, on entend le rhéteur, le professeur de rhétorique et de littérature qui était saint Augustin, qu'il avait été. Il a été élevé sur la croix alors même qu'il était humilié, mais son humiliation n'a pu être que haute, donc cette sorte de dialectique de l'élévation. Être élevé sur la croix, c'est une humiliation, mais cette humiliation n'a pu être que haute, humiliatio ilius, avec le caractère emphatique du « il est quelqu'un comme lui », l'humiliation ne pouvait être que haute. Et du coup, les représentations médiévales, vous savez, ces représentations si fréquentes, en particulier à la fin du Moyen-Âge, du Christ ressuscité revenant des enfers en entraînant à sa suite la multitude de ceux qu'il en a libérés, le montrent portant une oriflamme blanche marquée d'une croix rouge. Le paradoxe de la croix glorieuse a à ce moment-là cessé d'être, d'être paradoxal, si je puis dire. Et j'en donne je m'attarde un instant sur un exemple de ce retournement. Un exemple auquel j'ai déjà fait allusion, je crois, la dernière fois ou la fois d'avant. C'est une œuvre carolingienne, le De Laudibus Sancte Crucis, donc louange de la Sainte Croix ou gloire à la Sainte Croix, de Rabban Mor, Rabban, R-A-B-A-N, Mor, M-A-U-R, Rabban Mor, qui est œuvre qui a connu au Moyen-Âge un immense succès et dont le titre même dit cette métamorphose de l'humiliation en gloire. Et donc ce Rabban Mor a été, qui a vécu longtemps pour l'époque, de 780 à 856, a été abbé de Fulda et plus tard archevêque de Mayence. Voilà. Et son ouvrage mérite d'être présenté en quelques mots qui seront très, très insuffisants parce que c'est un ouvrage extraordinairement complexe et en même temps, je ne vais pas être trop long. C'est un recueil de calligrammes, donc bien avant Apollinaire. C'est-à-dire, c'est un recueil de poèmes figuratifs ou partiellement figuratifs. Je vais vous en montrer des exemples. Sont des pages de format carré et le fond de chaque page est entièrement rempli par un texte continu qui forme comme le fond de page et qu'on peut lire. Et sur ce texte se détache un dessin chaque fois. Et ce dessin délimite à l'intérieur du texte de fond, comme par un effet de mots croisés, un autre texte. C'est-à-dire que le dessin isole certaines des lettres du texte du fond. Et si on prend juste ces lettres, à ce moment-là, on voit surgir un autre texte qui est proprement, chaque fois, le poème à la gloire de la croix. Et le thème commun, justement, de tous ces poèmes, c'est la croix. Et pour vous montrer de quoi il s'agit, pour illustrer plus précisément mon propos, je dis un mot des deux premiers de ces poèmes. J'entends les deux premiers après les pages de dédicace, parce qu'il y a des pages de dédicace elles-mêmes sous la forme de calligramme. Enfin, les deux premiers sur la croix. Le premier représente de façon figurative, d'ailleurs assez grossière, le Christ en croix, mais pas la croix elle-même. On voit le Christ dans l'attitude du crucifié sans la croix. Le voici. Et le deuxième, à l'inverse, alors vous voyez le texte au fond, là, et puis on peut choisir de ne lire que le texte qu'il y a sur le caleçon du Christ, si j'ose dire, comme ça, d'ailleurs, c'est ce qui va se passer. Et le deuxième dessin, si vous voulez, à l'inverse, ne représente que la croix, et de façon presque abstraite, sous la forme de deux fines lignes médianes ne comptant qu'une lettre dans leur largeur et divisant le carré en quatre carrés égaux. Voici. Ouais. Alors, c'est par celui-ci que je commence, parce que le poème qu'il révèle est caractéristique des louanges à la gloire de la croix. Dans les deux lignes qui forment cette croix, on lit, enfin vous me pouvez, je ne sais pas si c'est enfin bon, vous me faites confiance, et, enfin vous me faites confiance ailleurs, je cite tout cela, oui, je dois le dire, je cite tout cela, et il y a naturellement, ce texte a été édité bien des fois, reproduit, est très connu, très étudié. Mais il y a eu récemment un livre excellent, et dans une nouvelle excellente collection, le livre de Michel Jean-Louis Perrin, l'iconographie de la gloire à la Sainte-Croix de Rabanmore, chez Brepos, 2010, et c'est le premier volume d'une collection lancée par Christian Heck qui s'appelle « Répertoire iconographique de la littérature du Moyen-Âge » et qui est, enfin dans son projet, c'est le premier volume, une très belle collection. Et d'ailleurs, l'ouvrage de Michel Jean-Louis Perrin sera présenté à l'Institut de recherche et d'histoire des textes cet après-midi même. Et les citations que je fais, enfin les transcriptions et les traductions, quelquefois je les change un petit peu, mais enfin, viennent en gros, les transcriptions viennent de cet ouvrage, les reproductions, les deux reproductions que je vous ai montrées, et en général les traductions. Donc, je reviens au second. À la seconde image poème, celle où il y a cette croix abstraite, peut-on dire, et dans les deux lignes de la croix, on lit le poème suivant, le poème que voici, « O crux, quae summi es noto dedicata tropeo, ô croix consacrée au trophée illustre du Très-Haut, ô crux, quae Christi es caro benedicta triumpho, ô croix, chair bénie par le triomphe du Christ. » Ça, c'est les deux barres de la croix. Et dans le carré, oui, je ne l'ai pas mis, enfin, dans le carré qui entoure et qui forme la bordure extérieure de la page, cette bordure grise la page, on lit « O crux, quae excellis toto et dominaris Olympo, ô croix, tu dépasses et domines l'Olympe entier. » Et alors, j'arrête là parce que, voyez, cette anxiété d'assurer vraiment le triomphe et la gloire de la croix, et pour quelqu'un comme Rabanmore qui est cultivé, qui est de ces humanistes carolingiens, naturellement, la grande référence, le point de comparaison, c'est toujours l'Antiquité païenne et la littérature païenne. Et alors, la croix, c'est encore mieux que l'Olympe, encore plus haut que l'Olympe, encore plus glorieux que l'Olympe. Et donc, cette inversion des valeurs est totalement oubliée. Donc, « O crux quae excellis toto et dominaris » Attendez. Voilà, si, je l'ai. O crux, quid ederas rupto plebem ire ab averno, o croix, tu as permis au peuple de sortir de l'averne que tu as brisée. O crux, dux misero latoque redemptio mundo, o croix, guide pour le monde malheureux et vaste, o crux, vexillum sancto et pia cautio saeclo, o croix, étendard et pieuse protection pour le monde que tu sanctifies. Et la croix comme étendard, vous connaissez le vexilla regis, c'est quelque chose qui frappera l'imaginaire médiéval. Donc, bon, alors, ce n'est pas une poésie très, très inspirée, hein, mais tout le recueil est de cette facture. Et c'est ça, une série de vers pour un peu disparate et dissociée, puisque c'est le calligramme même ne favorise pas l'enchaînement des idées ni des vers. Et je vois donc cette admiration devant la gloire. Voilà. Alors, je reviens au poème qui est contenu dans l'illustration figurative qui précède celle de la croix abstraite, cette illustration figurative qui est donc le premier de ces poèmes. Ce Christ, les bras en croix, mais sans la croix. Les vers qui, je le rappelle, ne se succèdent pas sur la page, mais doivent être cherchés en divers endroits du dessin, là, dans les bras, le long des bras du Christ, dans son auréole, etc. Eh bien, ces vers forment un ensemble encore moins cohérent. Et on lit, par exemple, « Dextra deissum me cuncta creavit Jesus »« Jésus a créé toute chose par la droite du Très-Haut » et là, on le voit, le lit dans ses bras, n'est-ce pas ? Il a les bras étendus. Donc les bras du supplicié, mais ces bras étendus du supplicié deviennent les bras du Créateur. Et la gloire apparaît tout de suite derrière le supplice. Christus laxabit et sanguine debita mundo, le Christ paiera de son sang les dettes du monde, ça c'est la rédemption. In cruce sic positus, desolvens vincla tyranni, placé ainsi sur la croix, il nous délivre des chaînes du tyran, c'est-à-dire du diable. Mais on lit, et puis ça continue, n'est-ce pas, je ne cite pas tout, mais on lit aussi « Veste quidem parua ic tegitur qui continet astra, atque solum palmo claudit ubique suo. » Un petit vêtement couvre ici celui qui maintient ensemble les astres et sa main renferme la terre entière. Bon. Ce distique qui mentionne le petit vêtement cette paroi westis, le petit vêtement, ce distique qui mentionne le petit vêtement du Christ, est inscrit sur ce petit vêtement lui-même. De même que ce petit vêtement qui, sur les crucifix, dissimule la nudité du Christ, qui ce petit vêtement, ce linge, qui dissimule physiquement la nudité du Christ, mais qui dissimule aussi, comme un euphémisme, le fait que le Christ était nu. Voilà. Qui fait que dans cette iconographie si importante dans la religion chrétienne, cette iconographie elle-même, sauf de rares exceptions, mais qui existe, ne va pas jusqu'au bout de l'humiliation du Christ. S'arrête tout de même à un moment donné. Eh bien, de même que ce linge sur le crucifix dissimule la nudité du Christ, ce petit vêtement, de même, la mention qu'en font ces deux vers est une sorte d'euphémisme de cette nudité. Et cette mention prudente et elle-même gazée, de voiler de la nudité du Christ est aussitôt contrebalancée par le rappel de la puissance divine, de celui, la puissance divine qui est aussi celle du Christ, qui est la puissance de celui qui se trouve ainsi exposé et nu sur la croix. Et donc, voyez, ces deux vers là, sont très prudents sur la nudité du Christ. Ils y font allusion en disant que c'est une presque nudité, il n'a qu'un tout petit vêtement. Voilà. Et c'est inscrit sur ce tout petit vêtement. Voilà. Et en même temps, c'est dans tout le recueil, me semble-t-il, à moins que je n'ai pas lu très attentivement, ce n'est pas une lecture très polichonne, comme vous pouvez vous en rendre compte, hein, ce n'est pas très long non plus. Voilà. C'est, me semble-t-il, dans tout le recueil, la seule allusion à l'humiliation de la croix. Alors, je vais tout droit à cet exemple extrême que pour faire apparaître cette tendance au déni ou à l'effacement ou à l'atténuation de l'humiliation de la croix, ou cette tentation, si on peut dire, de l'effacement, d'humiliation de la croix. Ça ne veut évidemment pas dire, encore une fois, que cette humiliation de la croix n'est pas est ignorée, qu'elle n'est pas méditée. Je l'ai dit il y a un instant, j'en ai donné des exemples massifs. Elle fonde certains des récits que nous lirons. Certains des récits de l'humiliation que nous lirons selon un ordre, pas justement humiliation religieuse, humiliation chevaleresque, humiliation sexuelle, enfin que sais-je, nous trouverons, ce n'est pas la moindre, nous y trouverons l'humiliation de la croix. Et hors de même de ce cadre narratif, dont je dirai d'ailleurs, enfin bientôt, je dirai dans le cours de l'introduction pourquoi je le privilégie, pourquoi je parle, vous me direz que c'est pas ce que je fais pour l'instant, mais enfin ça finira par venir, pourquoi je parle de l'humiliation à travers des récits de l'humiliation. Vous en parlerez. Eh bien, hors même du cadre narratif, encore une fois, ce rappel, je l'ai dit, nourrit la méditation chrétienne dans les livres d'heures, dans les traités de dévotion et tout particulièrement dans les sermons. Les sermons, les prédicateurs insistent sur l'humiliation de la croix. Or, les sermons, c'est un genre très important parce que c'est un genre toujours très révélateur, parce que le souci que le prédicateur a de son auditoire en fait le miroir des préoccupations, des modes de pensée, de l'orientation ou des difficultés morales et spirituelles, du niveau de savoir, du type de savoir de ceux auxquels le prédicateur s'adresse. D'ailleurs, pourquoi ça, dans ma prime jeunesse, j'ai consacré ma grande thèse, grande non pas par la qualité, mais parce qu'à l'époque, il s'agissait d'un doctorat d'État ancien style. Donc on disait la grande thèse par opposition à la thèse complémentaire ou à la thèse troisième cycle, etc. Bon. Donc, j'ai autrefois, et c'est dire si c'est vieux, j'ai consacré ma grande thèse aux plus anciens sermons en langue vulgaire, dans lesquels, sous l'influence de Jacques Le Goff, et à une époque où l'histoire des mentalités opposait la culture savante à la culture populaire, alors que maintenant on voit plus un continuum entre les deux, je cherchais un point de contact entre l'une et l'autre, et je cherchais d'ailleurs avec un succès médiocre. En route, j'ai fait. Mais j'ai fait un peu trop vite. J'étais un jeune homme pressé, ambitieux. Bon, j'aurais mieux fait de la soigner un petit peu plus. Mais enfin bon, c'est pas qu'elle soit totalement nulle, mais elle est. Non, c'est pas une très très bonne thèse. Elle est pas très bonne. Elle a été éditée dans de très mauvaises conditions. Parce que je suis distrait, je n'y passais pas assez de temps, j'ai très mal relu les épreuves, et c'était en test. Au début, elle est elle a paru début 76, et à l'époque, c'était les débuts de l'offset, de sorte que ça coûtait moins cher de l'imprimer comme ça, là, chez Champion, mais chaque fois qu'on faisait une correction, il fallait recomposer toute la page. Alors, il en sortait 15 autres. Ça a été naturellement plein de latin, plein d'anciens français, plein d'occitan, plein de catalan, plein de lombard. Hein. Et alors, c'est la profession en a ri longtemps et doit en rire. Si on la lisait encore, on en rirait encore. Il y a eu, c'est quand même épuisé. Il y a eu une réédition quelques années plus tard que j'ai corrigée, mais j'en ai quand même laissé. Bon, excusez-moi, c'est strictement sans intérêt. Cette rencontre entre culture savante et culture populaire, c'est pas que j'en ai pas trouvé des traces, mais enfin, bon, ma thèse est quand même limitée. Mais cette rencontre entre les deux est précisément autour de l'humiliation, celle qui est venue après moi, et dont je n'ai été qu'un Jean-Baptiste minable, elle l'a trouvée. C'est Nicole Berriou, la grande spécialiste de la prédication médiévale, qui est une professeure à l'Université de Lyon 2, membre de l'Institut universitaire de France, et qui vient d'être nommée directrice de l'Institut de recherche et d'histoire des textes. Et Nicole Berriou a trouvé cette rencontre dans un sermon d'un prédicateur du XIIIe siècle qu'elle connaît particulièrement bien. Elle sait tout particulièrement bien, et en particulier, connaît tous les sermons particulièrement bien. Mais enfin, elle lui a conservé, donc sa thèse de troisième cycle, avant de thèse. C'est Ranulf de la Houblonnière. Ranulf de la Houblonnière, il a été évêque de Paris, après avoir été curé de Saint-Gervais, chanoine du chapitre cathédral. Il est mort en 1288. Et bon, je cite Nicole Berriou, encore je ne peux que m'abriter derrière sa science, c'est pas, dans un sermon pour le dimanche des rameaux, Ranulf compare le destin du Christ en ce jour à celui du chevalier parti autour. Ah, donc le dimanche des rameaux, donc là, l'acmé, le sommet de la gloire du Christ, l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem, puis immédiatement après l'arrestation, la passion. Donc Ranulf compare le dimanche des rameaux, c'est ce dimanche où la liturgie prévoit deux évangiles. Hein. Il y a l'évangile de l'entrée à Jérusalem, et puis après, la lecture de la Passion. Maintenant, on tourne avec les trois synoptiques. À l'époque, c'était toujours Matthieu, le dimanche des rameaux. Donc, dans ce contexte, Ranulf, qui prêche le dimanche des rameaux, compare le destin du Christ en ce jour à celui du chevalier parti au tournoi en grand apparat et qui s'en retourne en fuyant, l'épée basse, comme dut le faire le Christ dans la honte et la confusion des souffrances qui marquèrent la fin de son tournoi sur terre jusqu'à la crucifixion. Et là, je cite Nicole Berriou. Et alors, cette comparaison qu'emploie Ranulf de la Houblonnière est tout à fait remarquable, puisqu'elle tire sa force elle est remarquable, et puis elle me fait plaisir parce qu'elle me conforte d'une certaine façon, parce qu'elle tire sa force du paradoxe qui est mon point de départ, la confrontation d'une société de l'honneur et d'une religion de l'humiliation. La passion du Christ est comparée à la situation la plus humiliante que connaisse la société chevaleresque. Partir tout faro au tournoi et se couvrir de honte publiquement, dans cette circonstance tellement publique, avec les dames qui assistent, etc., au tournoi. Et pour prendre la pleine mesure des ouvrages subis par le Christ, il faut donc les comparer au déshonneur chevaleresque. Et ce prédicateur a tellement le sens de l'humiliation de la passion, hein, qu'il va chercher une comparaison là où l'humiliation fait le plus mal dans la société de son temps. Il y a un certain nombre d'années, il y a même longtemps, Jacques Ribard avait lu Le Chevalier de la Charrette, roman donc, dont je finirais bien un jour par parler, et beaucoup. Il a lu Le Chevalier de la Charrette comme une allégorie de la passion et de la résurrection du Christ. Et donc, la Passion du Christ, le chevalier raillé, humilié dans la charrette, qui franchit le pont de la mort, l'eau courant, enfin l'eau étant la pas forcément courante, là, l'eau étant la limite de l'autre monde dans la mythologie celtique, comme on ne cesse de le répéter, là, franchissant sur le par de façon douloureuse au prix d'un martyr par le pont de l'épée, là, en se blessant les mains et les pieds, et puis etc. Et ensuite délivrant ses frères, les gens du royaume de l'Ogre, le royaume du roi Arthur, qui étaient gardés prisonniers dans le royaume de Gore. Bon. Alors, personne n'a cru à son interprétation, et je ne crois pas que j'y croie vraiment moi-même non plus. Je pense que Chrétien III utilise des schémas mentaux, si on peut dire, qui sont ceux, justement, de l'inversion des valeurs, de l'humiliation suivie de la gloire, etc., qui sont ceux qui lui sont le plus familiers. Et quoi de plus familier que la passion et la résurrection du Christ? Mais je ne crois pas qu'il ait écrit un roman allégorique. Mais, et je m'arrêterai là-dessus, parce que sous couleur d'humilité agressive, je suis très vaniteux. Hein, j'ai pu m'arrêter là parce que je maîtrise toujours mal mon temps et qu'il faut bien s'arrêter quelque part quand l'heure est finie. J'ai trouvé dans un sermon français du XIIIe siècle, un sermon inédit, naturellement, sur les noces de Cana, une comparaison entre le martyr de Sainte Agnès et le franchissement du pont de l'épée par Lancelot. Et pour tout de même avoir un petit avant-goût du chevalier de la charrette avant le chevalier de la charrette, et pour me faire pardonner de vous ennuyer avec les sermons comme ça, ce prêchi-prêcha et ces sermons du père Goupillon au lieu d'en venir à la littérature du Moyen-Âge, eh bien, je m'arrête, je fais de nécessité vertu, et je m'arrête sur cette comparaison si parlante sur laquelle, naturellement, je reprendrai. Je vous remercie.